Et vous écoutez France Culture. Là, dans ces ruines, comme le frôlement d'une robe. Anicié Bourgeois, Jacques de Maillon. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en proie aux spectres, aux fantômes et autres impalpables horreurs. Ce soir, l'actualité spectrale est en effet d'une rare richesse en cette fin de saison. Avec le retour en gloire sur la scène de l'Opéra Comique, grâce à Laurence Equilbé et David Bobet, de La Nonne Sanglante de Charles Gounod, une œuvre lyrique et frénétique de 1854, largement inspirée d'un épisode du Moine de Lewis. Deux numéros spéciaux des revues Terrain et Carbone, les actes d'un colloque aux éditions Quimet, deux parutions du spécialiste des spectres et des vampires Daniel Sansu et l'actualité des enquêtes du singulier Philippe Baudouin. Mauvais genre en fil sensuaire, c'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, vous l'aurez comprise, largement placée sous l'invocation des spectres et autres créatures impalpables et glaçantes. Bonsoir Philippe Baudouin.
Bonsoir à vous.
Alors Philippe Baudouin vient régulièrement à l'antenne de Mauvais Genre, puisque rappelons-le qu'il est à la fois historien du paranormal, enquêteur et en même temps réalisateur et producteur à France Culture, donc c'est à la fois un collègue et un témoin. Il vient régulièrement nous présenter les bilans d'étape des recherches qu'il a entamées sur ces sujets. Alors on est avec vous, on a visité une première exposition autour de ces thèmes.
Dessiner l'invisible.
Voilà, dessiner l'invisible. Ensuite, on est allé non loin de la place Pigalle, dans la maison la plus hantée de Paris, mais ce soir-là, le fantôme était sorti.
Le fantôme de l'avenue Frochot, à côté de Pigalle.
Voilà, l'avenue Frochot. Et puis là, vous êtes avec nous pour un nouveau témoignage sonore. Et puis, deux parutions, donc welcome à Mauvais Genre. Mais avant cela, bien évidemment, nous allons ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et quelle est la lettre ce soir? C'est suaire, c'est fantôme?
Eh bien non, c'est une lettre sans fantôme. C'est la lettre N, comme Nosiciel, Frédéric Nosiciel, qui est artiste visuel et chorégraphe. Depuis 2011, il travaille sur la culture du voguing et à travers des films, des performances et des photographies, il fait se rencontrer deux scènes de vogueurs, celle des ghettos noirs de Baltimore et celle de la région parisienne. Alors retour sur l'histoire du voguing.
La première figure, à mon avis, centrale, qu'on oublie tout le temps, surtout que le monde gay patriarcal donc l'évince en permanence, qu'il faut rappeler, c'est que cette scène a été inventée et créée par les transsexuels et par les drag queens, mais surtout les transsexuels qu'on appelle les femme queens. En fait, ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça, cette culture-là. Ça peut remonter au début du siècle dernier, quand à Harlem, les femmes noires, exaspérées de ne jamais gagner les concours de beauté, les beauty pageants, ont commencé à créer leur propre concours de beauté, et les drag queens, puis les transsexuels, ont elles-mêmes créé leur propre concours de beauté. Et c'est né à ce moment-là. Et elles ont commencé à performer des poses de la féminité. Et dans les années 50, au moment de la modernisation du magazine Vogue, qui passe de l'illustration à la photographie, donc c'est très très lié aussi à l'histoire de la photographie, donc à l'histoire de l'art, les performeurs de la scène du voguing se mettent à performer les poses des mannequins en couverture du magazine. Je pense pas que ce soit la scène du voguing qui ait dit que c'était du voguing, je pense que ça a été nommé par l'extérieur, parce qu'on est souvent identifié par l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de storytelling, on dit que le voguing est né en prison, ça fait partie des mythes et légendes du voguing, il est possible, mais en tout cas, que certains le performaient en prison par provocation. Donc, tu vas retrouver donc la figure du femme queen et tu vas voir en fait toutes les variations de l'ultra masculin à l'ultra féminin. Et donc, en fait, tu peux créer des catégories en permanence, c'est extrêmement incluant. Tu vas avoir donc les catégories femme queen, drag queen, mais on dit pas drag queen, on dit butch queen up in drag. Ils inventent leur propre vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils retournent tout ce qui leur échappe du monde blanc et se le réapproprient et réinventent à la fois un vocabulaire. La vulgarité devient élégance. Tout se retourne comme un gant. James Baldwin en parle très bien. La sursexualisation du corps noir. Comment, à un moment donné, ils se l'approprient eux-mêmes. Comment ils la surjouent, comment ils la performent en permanence. Donc le voguing fait partie de cette mouvance-là, de cette prise de conscience, d'acknowledgement, de reconnaissance de sa propre capacité d'agir, en fait. plongé dans cet univers-là extrêmement performatif, tout le rapport à la danse est sorti de manière quasiment naturelle, organique. Et je suis passé à la caméra en fait avec mon iPhone pour revenir à quelque chose du temps réel et pas de la photographie arrêtée, pas du temps suspendu. Et on a commencé à travailler ensemble sur la possibilité de performer sur autre chose que des sons, des scènes, des balls, qui sont des sons très spécifiques, avec des gens au micro, des masters of ceremony, des maîtres de cérémonie qui scandent des chants. Puisque l'idée, à partir du moment où j'ai débarqué dans ce milieu-là, je déplaçais le voguing à un autre endroit. Et si je le déplace à un autre endroit, je risque de le dénaturer. Donc quitte à le dénaturer, autant créer avec eux des nouvelles formes, et en particulier en introduisant une chose qui me paraissait juste, qui est l'univers baroque, le baroque français, puisque je trouvais que cette scène était extrêmement baroque, c'est-à-dire flamboyante, extravagante, différente, originale, des costumes, des troupes du genre, entre le masculin et le féminin, et qui sont très clairement mauvais gens, que ce sont des mauvais garçons, des mauvaises filles, et que ça renvoyait aussi à l'organisation politique de la cour du roi et des bals baroques sous Louis XIV, d'une organisation politique aristocratique. À l'intérieur du voguing, il y a une organisation politique extrêmement forte, avec des figures tutélaires très hiérarchisées, des icônes, des légendes, des stars, dont il est difficile de remettre en question à la fois le statut, etc., etc. Donc il y avait comme ça pour moi un parallèle très fort entre le voguing, qui était aussi une culture populaire au départ, qui est devenue extrêmement savante, puisque tu peux pas rentrer dans la scène du voguing comme ça et performer et faire du voguing si tu sais pas un tout petit peu de quoi il retourne, si t'as pas vécu la chose, si t'as pas performé, si t'as pas appris. Et donc en fait c'est devenu une pratique experte, au même titre que la danse baroque française qui vient des bals populaires. C'est aussi devenu stylisé, maniéré, et devenu savante.
Les films de Frédéric Nosiciel sont à retrouver grâce à Vidéodance, programme qui regroupe des films qui posent la question de la danse comme pratique de résistance. C'est à voir dans le cadre de MOVE, manifestation au croisement de la danse, de la performance et de l'image en mouvement, qui se tiendra du 7 au 24 juin au Centre Georges Pompidou. Soirée spéciale vendredi 8 juin avec Frédéric Nosiciel qui présentera son film The Fireflies Baltimore en compagnie du vogueur Vinnie Revlon et d'Anne Crémieux, chercheuse. Et surtout, surtout, ne pas rater Red Shoes, superbe film avec le vogueur Kendall Meugler qui danse avec ses escarpins rouges de 12 cm dans la chapelle Saint-Denis sur de la musique baroque. Plus d'informations sur le site de Frédéric Nosiciel, www.seeyoutomorrow.free.fr ou sur celui du Centre Georges Pompidou à Paris.
Merci Céline pour cet André. Frédéric Nosiciel de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Est-ce qu'on danse dans le milieu spirit, Philippe Baudouin? Est-ce qu'il arrive que la transe prenne des allures chorégraphiques ou que les chorégraphes aient utilisé les capacités physiques des spirites pour leur spectacle?
Ah ben on sait dans les premiers récits de séances de table tournante que les corps avait pour habitude de se désarticuler hein, très souvent sur des rythmes spasmodiques assez effrayants parfois, en tout cas assez spectaculaires.
Souvent chez les femmes. Adoptant des positions qu'on ne peut pas adopter à l'état conscient
quotidien. Exactement, jugé obscène évidemment à l'époque, puisque la plupart du temps les premiers médiums étaient des femmes. Hein. C'est un milieu extrêmement féminin, le milieu de la médiumnité, en tout cas au moment où il naît, c'est-à-dire dans les années 1850.
Voilà, la femme, Céline Duchesnay, n'ayant pas le droit à la parole, il fallait bien qu'elle entre en transe.
Elle s'exprimait autrement.
Pour s'exprimer. D'ailleurs, je recommande...
C'est le corps qui exulte.
Voilà, sur ce sujet, les travaux de Nicole Edelman, et notamment sur, justement, la transe ou les apparitions mariales comme canaux d'expression des femmes au XIXe siècle. Alors, on va retrouver une autre femme maintenant, si vous le voulez bien, qui n'est pas une femme de ce monde, qui est la nonne sanglante, en effet. La première partie de notre mauvais genre de ce samedi lui sera entièrement consacrée. C'est en effet le grand retour en gloire de la nonne sanglante, opéra de Charles Gounod de 1854, je le répète, qui fait retour sur la scène de l'Opéra de Paris, d'où il avait été chassé par un directeur acariâtre et pas très très reluisant, il y a de cela 160 70 ans. Alors, Mauvais Jean, on va rarement à l'opéra. C'est pas vraiment notre affaire. On y va en compagnie de Dario Argento pour son film éponyme, Opéra. De temps en temps, on peut croiser effectivement Verdi, Macbeth de Verdi. On peut évoquer Wagner et son vaisseau fantôme. Il y a du Mauvais Jean dans l'opéra, notamment Loulou de Berg en est un très très bon exemple. Mais on ne s'aventure assez peu dans le monde lyrique. Et là, on est vraiment ravis de notre escapade puisque cet opéra convient tout à fait aux amateurs de Mauvais Jean et aux auditeurs de cette émission, puisque et donc il est tiré d'un livret qui vient lointainement des légendes germaniques, d'un chapitre du moine de Lewis, d'un mélodrame d'Anicet Bourgeois et Jacques de Maillan, je le répète, qui s'appelait La Nonne Sanglante. Donc on est à fond dans cette culture populaire du 19e siècle qui peut-être utilise un peu tardivement les grosses ficelles, mais ô combien délectables et efficaces de la sensibilité gothique et frénétique. Donc voilà, on est en plein gothique fantastique ce soir avec cette nonne sanglante et on va écouter tout d'abord un extrait de l'opéra. C'est une histoire d'amour dans le Moyen-Âge pragois, l'époque des croisades. Deux familles arrivent à la paix, mais une histoire d'amour beaucoup plus romantique déstabilise cette paix chèrement acquise et surtout grâce à l'intervention d'un fantôme séculaire, celui de la nonne sanglante. Mais je ne vous en dis pas plus puisque les auteurs, je dirais, de ce retour, Laurence Equilbé et David Bobet, vont nous en parler. On va d'abord écouter Laurence Equilbé, donc chef d'orchestre que l'on sait, chef de chœur bien également, nous présenter l'œuvre de Gounod et surtout la conception qu'elle en a. Et avant cela, eh bien, on écoute la marche des morts vivants. Bonjour Laurence Equilbé.
Bonjour.
La nonne sanglante fait retour sur la scène à l'Opéra Comique à Paris après de 170 années d'exil des scènes lyriques, puisque la création s'est faite en 1854 et que très rapidement, le directeur de l'Opéra de Paris a décidé que Paris saletait, Paris ordure, n'avait pas à figurer sur une scène lyrique. Alors d'abord, première chose, quand on pense à Charles Gounod, on pense à l'Ave Maria, effectivement, il y a du sacré. On pense à Faust, avec des figures méphistophéliques que l'on connaît, célébrissimes. On pense à Roméo et Juliette, mais on ne pense pas à la nonne sanglante. Alors comment cet opéra, marqué par le fantastique gothique, s'inscrit-il dans son parcours? C'est plutôt une œuvre de jeunesse.
Oui, tout à fait. C'est son deuxième opéra, juste après Sappho. Et effectivement, c'est un livret qui traînait beaucoup dans les milieux de composition parce que c'est un livret qui avait été proposé à Berlioz, qui a d'ailleurs écrit pratiquement deux actes sur cet opéra, puis il a jeté l'éponge, comme on dit. Et c'est donc Gounod qui s'y est essayé et qui a fort réussi.
Alors, La Nonne Sanglante, c'est une histoire qui est vraiment typique du fantastique gothique anglo-allemand. C'est une histoire qui s'est promenée dans toute l'Europe. Elle est apparue d'abord en Allemagne, au XVIIIe siècle. Ensuite, elle a été récupérée par Lewis à l'intérieur du moine. Ensuite, elle est devenue un mélodrame de Scribe. C'est une histoire vraiment typique de ce qu'on appelle le gothique, le fantastique gothique international de la fin du XVIIIe, du début du XIXe. Comment se fait-il que ça ait charmé encore, ça ait encore intéressé le public du Second Empire?
Écoutez, je pense que le mouvement gothique, en tout cas, est arrivé en France un peu plus tard qu'en Angleterre. Et il y a eu tout d'un coup une forme de frénésie, d'ailleurs, cette littérature frénétique pour ce mouvement, qui a été d'ailleurs assez court dans l'histoire de la littérature, et d'ailleurs qui est disparu pratiquement aussitôt, en fait, aussitôt aimé, aussitôt disparu. Et donc ce qui explique aussi peut-être l'abandon soudain de cette nonne, indépendamment des guerres de directeurs, plutôt, je pense, d'opéra. Il y a eu un autre directeur qui a été nommé, et comme tout directeur qui se respecte, considère que la programmation de son prédécesseur n'était vraiment pas au niveau de ce qu'il fallait.
Alors l'histoire a-t-elle vraiment choqué à l'époque ou est-ce qu'effectivement c'est purement politique?
Je pense que ça a pu choquer quand même parce qu'on n'était pas tellement habitué dans l'opéra à voir des morts vivants, très certainement pas. Il y a quand même eu le précédent de Meyerbeer, Robert le Diable, quelques 20 années auparavant, donc il y avait déjà quand même mis le public en haleine. Mais c'est vrai que cette histoire de meurtre de nonne est quand même un peu plus cabreux et surtout... une petite contradiction entre le fait que Gounod était quand même très croyant et le fait que traditionnellement cette littérature est volontiers anticléricale et que du coup il y a une petite torsion que j'espère nous avons réussi à résoudre avec David Bobet dans ce livret. Mais je pense que oui, à l'époque, ça a pu à la fois fasciner une partie du public, mais en choquer plus d'un.
Alors, le fantastique sur la scène de l'opéra peut prendre différentes formes. Ça peut être le Freischütz de Weber, ça peut être par exemple le Macbeth de Verdi, dont le début fait penser vraiment de manière évidente à la Hammer et au cinéma fantastique. D'ailleurs, Dario Argento s'en est servi. En quoi consistent les moments fantastiques, les moments horrifiques, frénétiques, terrifiques dans la Nonne sanglante?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a effectivement le moment où Rodolphe, donc le héros, voit des morts dans le château de ses ancêtres, donc il y a vraiment une zombie walk, une marche des morts qui est très très impressionnante. Il y a le moment fameux où il s'aperçoit que la personne qu'il a épousée n'est pas sa fiancée déguisée, mais est une vraie nonne, est un vrai spectre. Donc il y a le baiser, le mariage avec la mort. Donc ça, c'est assez impressionnant et horrifique. Voilà, et puis il y a d'autres moments, peut-être vers la fin, où là c'est plus une tragédie humaine, où effectivement il va être mis à mort, assassiné par les gens qui ne supportent pas cette situation.
Alors, dans cet opéra de 1854 de Gounod, Laurence Equilbé, il y a plusieurs types, je dirais, de musique. À la fois un grand opéra historique, puisqu'on n'est plus au XVIIe ou XVIIIe siècle, on est à l'époque des croisades, avec Pierre l'Ermite. Donc là, il y a véritablement des chœurs, il y a un côté d'élan médiéval, viril, de l'homme armé, comme ça, du combat entre guerriers. Il y a toute une dimension sentimentale, de romance pathétique, de mélodrame. Il y a les querelles familiales, donc il y a toute une série de types, je veux dire, de spectacles. Comment musicalement Gounod a-t-il travaillé les moments fantastiques? Est-ce que là, on observe vraiment dans son écriture un changement, une sorte de passage à autre chose? Je pense notamment à la scène de la vision, quand notamment le grand air de minuit, où l'histoire de la nonne est racontée au début, et puis l'apparition de la nonne et la zombie walk. Est-ce que là, l'écriture de Gounod musicalement change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se pétrifie? Comment la peur apparaît-elle?
Alors moi, je suis effectivement très fascinée sur la variété des climats qui règnent dans cette partition et surtout la façon dont il les a cousus ensemble, parce que c'est presque une partition on peut appeler d'ourche componir, c'est-à-dire qu'on ne sent pas du tout les numéros, tout s'enchaîne comme dans un véritable drame de la vie. Et donc, ce qui est très étonnant, d'ailleurs, il était absolument fasciné par Weber, le Freischütz, justement, vous en parliez tout à l'heure. Il y a vraiment des couleurs de Freischütz dans cet opéra. Il a retrouvé les bois, par exemple, clarinette, de basson dans le très grave avec des timbales pianissimo qui créent une ambiance très très particulière. Il enchaîne aussi parfois ce qu'on appelle les accords diminués, des accords un petit peu étranges et qui les enchaîne chromatiquement, qui créent aussi toute l'ambiance dramatique et gothique, je dirais, et fantastique, et très très bien rendue à mon sens dans cet opéra. Très très bien orchestrée aussi, parce que les couleurs pour le coup sont très importantes. Et puis après, en contraste, je dirais qu'il y a ces moments de passion amoureuse qui sont pour moi pas tellement sentimentales, plutôt très sincères et passionnées, et donc qui sont vraiment le grand génie de Gounod aussi, c'est cette veine mélodique, ces thèmes inouïs. Donc ça, c'est aussi un aspect très important de la partition. Et un autre aspect qui est plus verdien, je dirais, c'est chaque acte, enfin en tout cas le premier acte et le quatrième, se terminent par des ensembles gigantesques où il y a souvent un chaos de situations et où il y a plusieurs conversations ensemble, et ça me fait penser à des finales de la Traviata où vraiment c'est une technique d'écriture absolument maîtrisée. Et ça m'amuse parce que Traviata est écrite en 53, enfin, c'est-à-dire vraiment c'est des œuvres quasi jumelles et qui parfois ont vraiment des points communs très très forts.
Alors, comment fait-on pour diriger des chanteurs, des chanteuses, un chanteur qui se confronte à des apparitions spectrales terrorisantes, une chanteuse qui doit incarner un fantôme, une autre chanteuse qui doit au contraire évoquer une histoire? Comment fait-on travailler la voix pour restituer cette sorte d'électricité glacée, un peu du fantastique romantique?
Voilà, ben moi, un de mes mots d'ordre, c'était de pas trop charger en pathos, parce que je pense qu'on était plutôt dans la distance, justement, dans cette sueur froide qu'il fallait réussir à évoquer. D'ailleurs, cette musique-là, en général, résiste pas à un pathos expressionniste, et du coup, c'est une façon d'évoquer une musique un peu universelle, une forme de langage universel, de pas trop le charger en émotion du moment, mais d'être dans cette vision un peu distanciée et un peu comme dans un paysage mental.
C'est ça, donc quelque chose qui est moins de l'ordre du décorum, de l'artifice, voilà, plutôt que de la réalité intérieure, d'arriver à trouver l'intériorité. Et alors, les chanteurs, comment ont-ils déjà l'habitude d'avoir cette culture fantastique? Et puis de ce travail, comment fait-on, comment ont-ils réagi?
Ben, on a beaucoup discuté parce que c'est des moments où on pourrait en faire des tonnes, comme on dit. Il y a des possibilités musicales, bien sûr. Et du coup, parfois, je les retiens un tout petit peu. Ben, d'ailleurs, il y en a un qui teste sa voix là,
de moins en moins
derrière. Mais c'est justement être dans la profondeur, dans la sincérité, mais dans une grande, grande profondeur qui fait qu'on peut comprendre que le père est plutôt une instance d'autorité plutôt qu'un vrai père, que la nonne est une instance aussi... de la mort ou du fantasme plutôt qu'une... c'est pas du tout un vrai spectre, évidemment. Voilà, je dirais que le seul Rodolphe, c'est Michael Spiers qui l'interprète, peut avoir un geste plus naturel, je dirais.
D'autant que c'est un grand opéra sur la morte amoureuse, un thème qui deviendra extrêmement fréquent dans la littérature du 19e. Là, l'enjeu, c'est qu'à aucun moment, l'un gagne sur l'autre. C'est-à-dire que la morte soit toujours amoureuse et que l'amoureuse n'oublie pas qu'elle est morte. C'est arriver à équilibrer la spectralité et l'affectivité.
Oui, c'est juste. Nous, on a vraiment traité ça de façon à définir cette vie de Rodolphe comme devant s'affranchir de ces deux instances que sont le père, son père et l'ermite, qui sont un petit peu des instances parallèles, et puis l'instance contraire qui est cette nonne. Et à la fin, ce qui est assez beau, c'est que finalement, ces deux instances vont être vraiment dos à dos et disparaître, s'effacer, pour pouvoir laisser Agnès, donc la fiancée de Rodolphe, et Rodolphe face à leur destin. Et c'est un petit peu la vision de cette morte amoureuse qui a réussi à se venger de son assassin grâce à toute cette histoire. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans la tragédie de Shakespeare, mais je crois qu'il y a une haine des familles au début, tout ça, mais ça fait partie, je dirais, du décor, mais qu'on est plutôt dans un chemin, dans un cheminement intérieur du héros.
Et la trace de sang.
Voilà, Laurence Equilbé, donc chef d'orchestre, chef de chœur et directrice musicale qui assurait donc le retour de cette nonne sanglante sur le plateau de l'Opéra Comique avec quelqu'un qu'on va étendre maintenant, David Bobet, le metteur en scène qui lui est allé puiser son inspiration, j'allais dire, aux meilleures sources, aux sources les plus noires du théâtre.
Parce que c'est très influencé par Shakespeare. Mais comme le romantisme est très influencé par Shakespeare, c'est l'histoire de deux familles qui se détestent avec des enfants et une histoire d'amour qui est au cœur du conflit des clans. On est vraiment dans Roméo et Juliette avec un prêtre qui arrive, qui sépare tout le monde, qui essaye de... Et c'est donc là, il y a quelque chose de très politique qui est au cœur de l'écriture de Shakespeare, qui est la fin d'un monde, la fin du monde féodal, la fin d'un monde où les choses sont écrites, préécrites, avec une raison, avec un destin décidé par Dieu, avec une filiation, un sens à la filiation très forte, où on est le fils de son père et tout ça. Et puis, la rupture avec la naissance de l'individu moderne. C'est un monde qui tarde à arriver. En gros, c'est « je ne suis pas le fils de mon père » ou « je ne suis pas que le fils de mon père ». C'est Hamlet, hein. Mon père meurt, mon père est roi, il meurt, je ne suis pas roi, donc qui suis-je? Et dans ce qui suis-je-là se joue tout le théâtre de Shakespeare, c'est-à-dire être l'acteur de sa propre vie, et pas simplement le fils de son père, pas forcément que la créature de Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui me passionnait, entre le conflit entre le monde des enfants et le monde des parents. Et puis l'autre raison, c'est évidemment le fantastique. Moi, si je suis arrivé à faire de la mise en scène de théâtre, c'est parce qu'enfant, je voulais être réalisateur de films d'horreur. Et donc, je retrouve là mes premières passions. Et donc, c'est très amusant d'aller chercher des codes comme ça qui sont liés, qui sont ceux d'une culture très populaire, et de les mettre au service de cette culture dite noble qu'est l'opéra. C'est la démarche des romantiques. Qui ont été chercher le fantastique pour les faire rentrer dans les belles lettres à la française, et c'est là la démarche qu'on essaie de retrouver avec des codes cinématographiques, avec une esthétique très très poussée, avec des références un peu au nanar, avec des références aussi aux séries actuelles, avec la nonne est un monstre et les monstres ne naissent jamais par hasard. C'est pas le monstre qui fait la crise, c'est une crise humaine, sociale, intime, personnelle, qui fait naître un monstre. Là, du coup, c'est très amusant parce que avec Laurence, on s'est régalé à rentrer dans une lecture assez psychanalytique de cette œuvre-là, d'un Rodolphe pris par son désir, par ses pulsions de jeune homme pour son amoureuse, et ce désir génère de la peur, et la peur génère tout un tas d'interdits qu'il va devoir affronter pour accéder à son désir. Et évidemment, bah, il fait naître une personnage de femme, de nonne, sanglante, monstrueuse, dévorante, quoi.
Alors, l'univers dans lequel vous nous attirez à l'occasion de cette nonne sanglante est un univers, je dirais pas en noir et blanc, mais plutôt en nuit et blême, spectral, anthracite, noir, qui est un univers non pas putride et déliquescent, un univers de cimetière au sens, je dirais, de la pourriture qu'on peut voir dans certains films du fantastique italien comme Lucio Fulci, mais plutôt un univers, au contraire, minéral, basaltique, extrêmement dur, dans lequel les personnages ont plutôt tendance à s'écraser qu'à se fondre. Là, il y a un parti pris, justement, de mettre en place une sorte de grand cérémonial en marbre noir.
La couleur noire s'est imposée tout de suite. Ouais. On est dans l'esthétique, dans l'esthétique gothique, donc évidemment, il fallait travailler la couleur noire. Mais travailler la couleur noire, c'est pas forcément travailler l'obscurité. Ouais. Ça peut être très lumineux, le noir. Et donc, j'étais chercher des matériaux avec Aurélie Lemaignan, avec qui je signe la scénographie. On était chercher des matériaux qui pouvaient renvoyer la lumière, qui pouvaient en renvoyer une certaine dureté, une certaine violence. La violence du monde des pères, la violence du monde du prêtre, la violence de ce monde désagréable. Donc effectivement, cette espèce de palais en carrelage noir qui aurait partiellement brûlé. Donc carrelage noir, du bois brûlé, la résine ayant brûlé crée aussi ses propres réflexions, de la cendre qui tombe au sol un peu en permanence. Voilà les matériaux. En fait, c'est un seul et même décor fait de colonnes qui se déplacent et qui architecturent des espaces différents. Et finalement, on s'amuse à passer dans presque tous les décors standards des films fantastiques, mmh. avec le terrain vague, qui est le champ de bataille du début, qui a à voir avec la ruine industrielle. Mmh. Puis on se déplace dans une forêt, sombre, avec les arbres décharnés. Puis on se déplace dans un palais, dans un château hanté, etc., etc., etc. Il y a vraiment ces espèces de tableaux, presque des points de rendez-vous pour les spectateurs qui ont le goût de ça.
Alors, pour ce qui est de la direction des acteurs, comment éviter le statisme, une espèce de hiératisme comme ça, comment faire animer un spectre? Et puis, surtout, il y a aussi un des moments clés qui a été abondamment diffusé par la presse, c'est la zombie walk. C'est-à-dire que là, il y a des premières marches des morts-vivants. Il n'y en a pas tant que ça dans l'opéra. Je crois qu'il y a la danse du cimetière des nonnes dans Robert le Diable, il y a l'arrivée du vaisseau fantôme dans l'opéra de Wagner, il n'y en a pas tant que ça. Alors là, quelle a été votre stratégie de montreur d'ombre?
Déjà sur la direction des interprètes, ils sont chanteurs et chanteuses, et en fait c'est presque pour moi le même rapport qu'un rapport plus habituel pour moi, qu'est le rapport aux acrobates. C'est des virtuoses, ils ont un outil qui est lié à leur corps, il faut respecter cet outil-là, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et à partir du moment où on respecte le besoin physiologique d'un acteur ou d'une actrice pour chanter, eh bien on peut tout leur demander, d'être de dos, assis, couché, vraiment de tout faire. Mais il faut respecter simplement l'instrument, lui est fragile. Et puis un chanteur, c'est aussi un acteur, et il a besoin de nourriture dramaturgique, de comprendre pourquoi il est là, ce qu'il a à faire, la situation dans laquelle il entre, ses objectifs, pouvoir finir une scène différemment de comment il l'a commencé, de pouvoir bien comprendre tous les enjeux dramaturgiques de tout l'ensemble de son parcours, mais aussi à chaque instant. Et alors là, les chanteurs qui peut-être manquent de cette nourriture-là, moi qui viens du théâtre, là c'était un dialogue assez passionnant. Voilà. Et puis alors sur la zombie walk, juste qu'elle régale, quoi. Dans la vie d'un metteur en scène, c'est génial. Oui, on a retiré leur visage pour les rendre encore plus flippants. Ce que permet l'opéra, que permet peu le théâtre, c'est le nombre. C'est-à-dire que là, on a un chœur entier, donc c'est 35 personnes qui peuvent vraiment faire une arrivée de mort-vivant, et ça, c'est quand même sacrément flippant, quoi.
Alors, les auditeurs de mauvais genre sont plus habitués à la bande dessinée, aux comics, aux mangas ou au cinéma fantastique. Si vous deviez situer ce que vous leur proposez en tant que metteur en scène lyrique d'un drame fantastique par rapport à la culture qui est la nôtre de cinéma et de bande dessinée, ce serait plutôt un spectacle qui irait vers quoi? Vers Mario Bava? Vers Lucio Fulci? Vers quoi? Vers la Hammer, vers les fantômes japonais, vers quoi?
C'est plutôt une espèce de culture un peu universelle par rapport au fantastique, parce que je me suis autant inspiré de Théophile Gautier, La Morte Amoureuse, dans le rapport rapport à la nonne sanglante, mais c'est une description, hein, voilà. Mais sur ce que je voulais comme transparence, la morte est marbrée, enfin comme une statue, c'est Galatée, Pygmalion. Donc il y a à la fois des choses qui viennent d'une culture encore une fois dite noble et des choses qui viennent d'une culture super pop. Bah par exemple Game of Thrones. Ouais. Bah oui, les deux clans, les Ludorf, les Moldo, qui s'affrontent avec vraiment des caractéristiques types. Mais Game of Thrones étant elle-même une série extrêmement influencée directement par Shakespeare. Donc les choses en fait se renourrissent d'elles-mêmes un petit peu en permanence. Évidemment, tout le cinéma d'horreur auquel j'étais biberonné dans les années 80. C'est pas tant de donner des détails parce que vraiment c'est ici une image, là un geste, là évidemment il y a du Rec là-dedans, il y a évidemment du fantastique japonais aussi, de The Ring, de fantastique coréen, de choses comme ça. Mes films un peu nanars, de fantômes, de monstres, voilà. Je pense forcément aussi à Marvel, c'est-à-dire la question du monstre pose évidemment la question du héros qu'il y a en face pour le combattre. Et c'est pas un hasard si les monstres Marvel naissent en pleine guerre froide. C'est pas un hasard si on les retrouve au passage au 21e siècle, dans cette espèce de monde en crise qui est assez anxiogène. C'est pas un hasard si on retrouve des monstres aussi dans la mythologie. Tout cela ont à voir avec la mythologie. Je veux dire quand Ovid, dans les métamorphoses, ou ailleurs va convoquer ces grandes figures monstrueuses, les grandes figures de héros qui sont en face, ils cristallisent un peu les peurs de son époque, les peurs d'une société, et permettent de mettre un visage sur ses propres peurs, permettent de fantasmer l'acte héroïque qui saura vaincre ses peurs. Tout ça est aussi un petit peu là.
David Bobet qui signe la mise en scène de La Nonne Sanglante et qui signe également les décors aux côtés de Aurélie Lemaignan. Donc le spectacle est à voir à l'Opéra Comique à Paris du 2 au 14 juin. Les dates sont bien sûr sur le site de l'Opéra Comique. La direction musicale, je le répète, est de Laurence Equilbé. Je cite le nom des chanteurs. Rodolphe, au cœur du drame, c'est Michael Spire. Sa nièce Vanina Santoni. La Nonne, et pas des moindres, est jouée par Marion Lebègue. Ludorf par André Eboer, Arthur, c'est Jeudi Deveau, c'est Pierre l'Ermite, donc la figure historique est aussi au centre de l'intrigue, Jean Tedjen, à voir donc cette Nonne Sanglante à l'Opéra de Paris jusqu'au 14 juin. Alors nous avons évidemment maintenant circulé dans les coulisses d'une mise en scène romantique, on va passer maintenant à l'activité de terrain avec Philippe Baudouin.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mauvais Genre consacré ce soir à l'actualité des spectres et des fantômes. Alors il y a quelques semaines, nous étions au Quai Branly, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, pour visiter avec Julien Rousseau et Stéphane Dumélido l'extraordinaire exposition sur l'enfer et les fantômes asiatiques. Et là, eh bien, nous retournons avec un autre spécialiste, Philippe Baudouin, pour faire là du terrain. Alors on n'est pas du tout dans la réflexion, dans la création, on est dans le terrain, c'est-à-dire dans la captation, dans le témoignage de phénomènes qu'on peut interpréter comme on le souhaite, mais qui sont des phénomènes authentiques que vous avez donc relevé, Philippe Baudouin. Alors, on connaît bien sûr votre ouvrage paru aux éditions du Murmure, une monographie exemplaire sur le gendarme tisané, qui était en tant que gendarme un chasseur de fantômes, ce qui mérite d'être dit. Il n'a hélas pas chassé que des fantômes, en tout cas, c'était un personnage qui, en tant que gendarme, chassait les spectres et les créatures surnaturelles. Et là, vous avez rencontré une gendarme.
Une policière,
mais qui n'intervient pas en tant que policière.
Non, qui intervient en tant que civil, en tant que que persuadé justement de détenir certaines facultés, on aurait appelé ça dans un siècle précédent des facultés psychiques ou parapsychiques. Elle, en fait, Élodie, c'est son nom, c'est une jeune policière d'une trentaine d'années qui a eu l'occasion, il y a quelques mois de cela, de mener sa première enquête dans une maison dite hantée. Elle avait été alertée en fait par un de ses collègues, donc policier également, que sa mère justement, qui habite dans le 14e arrondissement, dans un petit appartement d'un immeuble du 14e arrondissement, se sentait oppressée par une présence dans cet appartement. Alors la famille en question, la mère en question est haïtienne, extrêmement influencée, en tout cas touchée par toute la culture vaudou, évidemment. Et le fils, dans cet appartement, avait eu le malheur de faire venir une prêtresse vaudou. Il avait quelques difficultés sentimentales, un peu perdu, etc. Et il avait proposé à une prêtresse vaudou d'intervenir et de donner un rituel. Ce qui a été fait. Et depuis ce moment-là, effectivement, cette dame ressentait une énergie, selon elle, maléfique, en fait, à l'œuvre, principalement dans sa chambre. Et cette policière que j'ai rencontrée, à force de naviguer en eau trouble, eh bien, effectivement, ah oui. On rencontre ce genre de personnage depuis mes enquêtes sur les liens entre, on va dire, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre et puis le domaine de l'invisible, on peut être amené à rencontrer ce type de personnage sur sa route. Et bien cette jeune femme, Élodie, m'a proposé de la suivre pour une première enquête, une première tentative selon elle de purifier une maison.
Alors on va écouter un premier extrait donc de ce reportage que vous avez fait in situ et in actu pendant la séance d'exorcisme. Alors on peut situer le cadre là rapidement.
Alors on est dans ce petit appartement, il fait extrêmement chaud et on pénètre dans cet appartement. Cette dame nous explique le problème auquel elle est confrontée et au bout de quelques instants de discussion avec Élodie, elle part en transe.
Est-ce qu'il y a une entité dans cette personne? Si oui, qu'elle se manifeste. Si oui, qu'elle se manifeste. Acceptes-tu de libérer cette femme? Acceptes-tu de libérer cette femme au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ, acceptes-tu de libérer cette femme? Oui. 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 Vois-tu la lumière? Vois-tu la lumière? Vois-tu la lumière? Dieu est ton créateur. Dieu est ton créateur tout-puissant. Ton créateur tout-puissant. Sors de cette femme. 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 M'autorises-tu à t'aider pour aller voir la lumière? Oui. 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 Stop.
Oui.
Assis-toi.
Oui.
Calme-toi.
Oui.
Calme-toi.
Oui.
Calme-toi.
Oui. Oui.
Calme-toi.
Oui.
Calme-toi.
Oui.
Au nom de Jésus-Christ tout-puissant, je te demande de sortir de cette femme, de la libérer, de la libérer, de la libérer, de la libérer, de la libérer. Libère-la, 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 libère-la. Au nom de Dieu tout-puissant, je te demande de la libérer, de la libérer, de la libérer, de la libérer. Libère-la, 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 libère-la. Libère cette femme, libère cette femme, libère cette femme, libère cette femme. Au nom de Dieu tout-puissant, je te demande de libérer cette femme. Libère-la, libère-la, rends-lui son âme, rends-lui son identité. Sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Nous ne voulons pas de mal. Nous sommes là pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider à trouver la paix et le repos. Au nom de Jésus-Christ tout-puissant, je te demande de partir, de sortir de cette dame. Sors de cette dame, sors de cette dame. Libère-la, libère son âme, libère son âme.
Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, je vous remercie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Au nom de Jésus-Christ tout-puissant, au nom de Jésus-Christ tout-puissant, libère cette femme, libère cette femme, libère cette âme, libère cette femme, libère cette femme, libère, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Nous allons t'aider, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ tout-puissant, je te demande de sortir de cette corps. Sors, 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 sors. Sors.
Nous sommes là pour t'aider, nous sommes là pour t'aider, nous sommes là pour t'aider.
Philippe Baudouin, où étiez-vous à ce moment précis? Vous étiez le Nagra à la main, en train de
percher,
de capter du son,
En train de percher avec un magnifique micro stéréo, et je peux vous dire que c'est la première fois que ce genre de choses se produisait devant moi. Et je me suis posé la question à un moment donné, savoir si effectivement je continuais ou pas d'enregistrer, parce qu'il y a une, on l'entend, on l'imagine, il y a une forme d'agressivité qui est à l'œuvre, hein, chez cette femme-là. Alors, effectivement, je pense que paradoxalement, le fait de ne pas avoir l'image amplifie le caractère spectaculaire en fait de ce qui s'est produit à cette époque quand j'ai enregistré cela. Mais il faut aussi imaginer une dame d'un certain âge, avec son corps désarticulé, les yeux révulsés, se mettant à changer de voix en fait, extrêmement, de manière extrêmement brutale. Tout cela avec cette femme policière en civil, avec tout l'arrière-plan qu'on peut imaginer, effectivement, représentant des forces de l'ordre, etc. Et ce mélange improbable, cette scène dans ce petit appartement du 14e qui est en train, là, voilà, à tel moment, à l'instant T, de se produire devant vous, c'est assez déstabilisant, effectivement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est, voilà, ce qui se produit, il y a un événement qui se produit, et j'ai tenté effectivement de l'enregistrer et de le restituer de cette manière-là, sans l'image justement, uniquement avec le son.
Alors maintenant, on va écouter Élodie elle-même,
la policière,
témoigner de son rapport, de son parcours à l'égard donc de tous ces phénomènes de possession et de hantise. Élodie.
Alors quand je suis arrivée au domicile, déjà j'ai senti des énormes frissons froids mais malsains. Alors attention, parce que des fois dans les frissons, ça peut être des frissons froids mais on se sent bien, ça peut être de la chaleur chaude mais voilà, on se sent bien aussi, exact, on se sent bien. Mais là c'était vraiment comme si vous rentrez dans un frigidaire et vous sortez pas du frigidaire, quoi. Voilà. Donc j'ai mes poils, je vous ai montré en plus, hein, mes poils qui s'étaient hérissés, je me sentais étouffée, je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait. Et cette dame, elle m'observait, elle me regardait, et elle avait ce regard vraiment noir, quoi. C'était vraiment noir. Même quand je la regardais au départ par photo, je trouvais que cette personne était vraiment noire. Alors après, on a été dans la chambre. C'est là qu'elle disait que les manifestations commençaient, enfin, se manifestaient. Et puis, elle a eu deux mots. Je crois que j'ai dit le nom de son fils, le prénom de son fils. Et il y a eu... Ça a commencé les tremblements, ça a commencé... sa bouche a commencé à se déformer, elle a commencé à baver, les yeux sont révulsés en arrière, son corps était en possession de quelque chose, elle n'était plus maître d'elle-même. On l'a bien remarqué. Elle s'est mise sur le lit, elle a commencé à faire des grognements, des grincements qui sont pas, pour moi, qui sont pas humains. Je pense pas qu'on puisse gémir sans être possédé de cette façon-là. Ce sont des gémissements d'animaux, quoi. C'était vraiment même moi qui suis là-dedans, j'ai pas su quoi faire tout de suite, quoi. Tellement que ça m'a pris aux yeux. Je pensais que ça allait monter progressivement, mais au final, c'est pas monté progressivement, ça s'est déclenché d'un coup, et du coup, je savais pas quoi faire, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire?
Tout de suite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de prier. J'ai demandé l'aide de Dieu, j'ai demandé l'aide de Jésus, quoi. Voilà. J'ai mis la main sur son front, et j'ai demandé à ce que cette entité négative sorte du corps de cette dame pour la laisser respirer, dans toutes ses facultés personnelles, et je me suis rendu compte que c'était tellement fort que j'y arrivais pas, quoi, hein, qu'il a fallu vraiment que je fasse un travail pendant plus d'une heure après, par la suite, et ça a été des moments où j'ai eu l'impression de me battre avec le diable, quoi.
Thank you. Philippe Baudouin, alors là, c'est le contre-champ, si j'ose dire. C'est l'analyse qui a été donnée par la policière elle-même. Qui a quel rapport, d'ailleurs, entre son activité d'exorciste et ses fonctions d'agent de l'ordre?
En tout cas, elle cantonne cette pratique de purification, de magnétisme également, hein, et puis d'exorcisme à un cercle, effectivement, complètement étanche par rapport à sa pratique policière, on va dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, peut-être, aussi à souligner dans tout ça, c'est que on pourrait se dire que, effectivement, on est sur deux territoires complètement opposés. Je pense que, paradoxalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, il y a peut-être, entre les chasseurs de fantômes et les policiers, peut-être cette même utopie d'une transparence absolue, quoi. Une volonté comme ça d'étendre de manière assez impressionnante le domaine du visible. Chasser l'invisible, en fait, effectivement, pour rendre visible tout ce qu'il est permis de faire, y compris les domaines secrets, peut-être de la matière, du monde, etc., etc. Mais il y a, en tout cas, chez elle, cette volonté de parvenir à purifier. Parce que elle situe sa pratique entre une culture chrétienne, on l'entend, hein, elle invoque Jésus, Dieu, etc. Donc une tradition plutôt catholique, hein, elle le dit elle-même d'ailleurs. Et puis une pratique hérétique, par définition. On sait combien l'Église a combattu le spiritisme dès sa naissance au XIXe siècle. Donc effectivement, cette pratique, c'est celle du spiritisme, donc de la communication avec les morts, prétendue avec les morts, condamnée par l'Église catholique. Et donc elle parvient à produire eh bien, un mix de tout cela dans une pratique sur le terrain.
Élodie.
L'entité n'a pas aimé, forcément. Et faire des signes de croix sur un corps, l'entité n'a pas aimé non plus. Donc elle essayait de le sortir. Alors elle voulait le sortir par la gorge, elle criait, elle hurlait. Elle s'est commencée à se taper. Moi j'ai vu cette dame se taper, se lever les jambes, se taper au niveau du ventre, au niveau du sexe, au niveau... Et fort quoi, c'était vraiment des coups comme ça où elle se tapait le corps. Elle était rouge, elle levait les jambes et toujours au niveau du sexe parce qu'apparemment... les entités malsaines se situent aussi à ce niveau-là. Et elle disait elle-même qu'à ce niveau-là, elle voulait aller chercher des choses en elle parce que ça la gênait, etc., que ça rentrait par là et que... Et quand elle sentait un regain d'énergie et que ça allait bien, elle était extrêmement fatiguée, extrêmement épuisée. Elle en a pleuré, etc. Et quand je pensais que c'était parti, en fait, cette personne... Donc l'entité, hein, quand je dis cette personne, c'est l'entité, bah, m'a joué des tours, quoi. Parce que je pensais qu'elle était libérée, en fin de compte, elle n'était pas libérée, ça revenait. Et j'ai trouvé les mots des facteurs déclencheurs pour la sortir. Et à un moment donné, elle s'est levée, cette dame s'est levée, et je l'ai regardée droit dans les yeux, et je lui ai dit, tu ne me fais pas peur, je n'ai pas peur de toi. Et ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé, elle était fatiguée, elle tournait dans tous les sens, elle s'était calmée. Et elle me dit, j'ai l'impression que c'est sorti, j'ai l'impression que c'est sorti, j'ai l'impression que c'est sorti, j'ai l'impression que c'est sorti. Et au final, non, c'était pas sorti. Donc là, c'était, on va dire, au-delà de mes compétences.
Voilà, une séance d'exorcisme menée par Élodie, la policière, la gendarme, sous le regard et avec la complicité, je dis, radiophonique et radiogénique de Philippe Baudouin. Vous avez un prochain rendez-vous comme ça, Philippe Baudouin? On a besoin de vous quelque part, je sais pas, dans le Morvan, dans le Sud-Ouest, en Alsace, pour une nouvelle affaire?
Effectivement, il y a des choses en préparation, mais je pense que ce sera l'occasion de nouvelles émissions avec vous. Je l'espère, en tout cas. Je l'espère.
On continuera donc à répercuter vos enquêtes. D'ailleurs, votre prochaine production.
C'est une anthologie sonore des phénomènes psychiques ou phénomènes paranormaux sous la forme de disques, effectivement, avec le label Sub Rosa. Ça s'appellera Spectra Ex Machina.
Voilà, bah nous en parlerons bien sûr. Laurent Polleret ne manquera pas d'être à l'écoute parce que ça sort d'abord en vinyle et ensuite en CD.
Coffret CD, oui.
Voilà, et nous ferons l'écho de cette production. Alors, je disais en ouverture d'émission que c'est une fin de saison tout à fait sous l'invocation des spectres et des fantômes grâce à toute une série de publications. Alors, il y a bien sûr le catalogue de l'exposition du Quai Branly, tout à fait magnifique. Alors, on va les faire une par une, Philippe Baudouin. Il y a d'abord le numéro 69 de la revue Terrain, qui est une revue d'anthropologie et de sciences humaines et qui est titrée Fantômes, revue dans laquelle vous publiez un article justement sur la technologie
technologies.
Sur les rapports entre les machines et l'occultisme, ou plus généralement les phénomènes parapsychologiques. C'est un numéro qui a été dirigé pour l'occasion par l'anthropologue Grégory de Laplace, donc un numéro fantôme, dans lequel effectivement, notamment, on réfléchit sur cette question de la hantise, de la revenance. Et c'est vrai que l'angle de mon texte, que je publie à l'intérieur de cette revue, concerne ces liens entre la technique et les formes de présence généralement qu'on appelle fantômes, revenants, poltergeist. Comment justement mesurer ces formes-là, ces esprits-là?
Alors dans ce numéro 69 de la revue Terrain sur les fantômes, il y a un article qui m'a vraiment marqué qui s'intitule « La mémoire du béton ». De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la hantise des bunkers des îles anglo-normandes par les soldats allemands qui les ont occupés pendant des années et des années, qui ont été évidemment, toute la guerre est terminée, mais il y a encore des présences paranormales apparemment et des présences fantomatiques dans ces bunkers désertés et désaffectés, Philippe Baudouin.
Ça, c'est la vieille tradition de la psychométrie, hein. C'était Bozzano, l'italien Bozzano au 19e, qui avait parlé de la mémoire de la matière, ce génie des lieux qui se...
Les rémanences,
en fait, qui seraient inscrites dans les murs, un peu comme dans les sillons d'un disque, et qu'on pourrait justement peut-être entendre, percevoir plusieurs années, voire plusieurs décennies postérieurement aux phénomènes enregistrés.
Donc Fantôme, Terrain, numéro 69. Alors la revue Carbone, eh oui, la revue Carbone, on avait dit...
Le numéro 2.
Le plus grand bien à propos de leur premier numéro, Yael Sadat était venu avec Raphaël Penaza, donc à propos des cartes au trésor, et le numéro 2 vient de sortir, il est consacré aux maisons hantées, comme par hasard, et il y a un article de Philippe Baudouin, qui est décidément accrédite toutes les publications sur les fantômes dans ce pays. Et alors là de nouveau, il continue, c'est toujours aussi passionnant, Carbone, puisqu'on trouve non seulement évidemment des articles sur, je dirais, l'histoire des phénomènes spirites, mais également sur Corben, sur Amityville, et sur tout un tas de sujets. C'est la manière qu'ils ont d'articuler, je dirais, une anthropologie des spectres et des fantômes avec le milieu de la pop et de
la pop culture. Voilà, donc un numéro extrêmement transdisciplinaire, la BD, le cinéma, effectivement, et puis le domaine de l'histoire, quand même, qui a pas été mis de côté. Au contraire, c'est vrai que Jérôme Dittmar m'a interviewé pour l'occasion, et puis fait référence aussi aux travaux de Stéphanie Sauger, hein, la seule historienne française
des maisons hantées. Absolument.
Donc on revient un petit peu sur la naissance du spiritisme, et puis c'est l'occasion de s'interroger sur les formes spectrales aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère du numérique et des machines de télécommunication qui se propagent, comme on le sait bien.
Alors il y a un article, chacun a choisi son article dans la revue, parce que c'est une revue toujours aussi copieuse.
Ouais.
Près de 258 pages entièrement, qui brassent les articles de fond, les fictions, les illustrations, la bande dessinée. C'est véritablement un numéro très, très étonnant et très bien fait. Moi je recommande page 36 l'article sur William Castle. Alors William Castle, c'est la hantise, mais la hantise fun, la hantise pour s'amuser, qui transformait les salles de projection et les cinémas en train fantôme grâce à tout un tas d'artifices extrêmement futé de squelettes volants que les adolescents américains de la guerre froide tendaient à attraper, de lunettes à voir les fantômes, et puis également de vibrations, de vibreurs qui étaient collés et soudés au fauteuil. Donc William Castle transformait la salle de cinéma en espace
mouvant,
en espace terrible.
Ouais, où le corps éprouve justement ces spectres-là au plus profondément de sa chair.
Il y a également, je le signale, un texte de Neil Gaiman. C'est toujours un plaisir de le retrouver. C'est donc le numéro 2 de la revue Carbone. Nous continuons ce passage en vue des bibliographies d'un fantomatique, voire des fantômes, aux éditions Quimet, toujours avec un texte de Philippe Baudouin.
Parmi la trentaine ou la quarantaine de contributions, restons modestes quand même.
Voilà.
Oui, en fait, c'est le premier ouvrage de ce qu'on appelle, de ce que les anglo-saxons appelaient les spectral studies, puisque figurez-vous que ça existe maintenant. Il y avait les cultural, mais maintenant, studies, mais il y a également les occultural studies. Les spectral studies. Donc, c'est, si vous voulez, l'arrivée des spectres dans le monde universitaire. Et on essaie de réfléchir, chacun à notre manière. Il y a des historiens, des écrivains, des psychologues qui ont contribué à ce volume-là, hein, qui est issu d'un colloque qui s'est déroulé à Strasbourg il y a quelques années de cela, et qui se propose, voilà, de s'interroger sur la diversité de la prise en compte, justement, de la question spectrale dans différentes études. Voilà. en littérature comparée, en philosophie, en histoire.
Comment les fantômes sont-ils ? Je sais que le fantastique a dû attendre quand même quelques années pour faire son entrée à l'université. La science-fiction est présente, mais malgré tout pas tant que ça. Les fantômes, apparemment, arrivent grâce à l'anthropologie de l'imaginaire, grâce à la sociologie, à la psychanalyse, à trouver une place, à se tailler un petit royaume à l'université.
Oui, parce que justement, ils sont en lien avec des questions primordiales, comme celle de la mémoire sociale, la mémoire collective, que ça soit en lien ou pas d'ailleurs avec les grands conflits mondiaux, les grandes questions de notre temps. Mais c'est l'idée justement d'interroger l'invisible à travers plusieurs axes d'études.
Et on termine par quelqu'un qui nous a rendu visite il y a quelques années à la faveur d'une très très belle étude sur le fantôme en littérature. C'est le professeur Daniel Sansu. Et Daniel Sansu publie deux livres. Le premier, Vampires, fantômes et apparitions, nouveaux essais de pneumatologie littéraire, c'est chez Hermann. Et il publie surtout et avant tout aux éditions La Baconnière son journal d'universitaire et d'enquêteur sur les fantômes. Et il y raconte son passage à Mauvais Genre, passage qui constitue une demi-page de cet ensemble. Et j'aurai le plaisir de vous lire la semaine prochaine. Voyez, effectivement, cette fin de saison est très fantomatique et spectrale. On termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer.
À la fin des années 60, deux éditeurs révolutionnent la production italienne des bandes dessinées érotiques de poche, les Fumetti per Adulti, inondant les kiosques et traduit chez nous par Elvi France. Renzo Barbieri et Giorgio Cavedone sont les rois de ce marché florissant, se séparant en 1972 pour se concurrencer, le premier avec la Edi Fumetto et le second en rebaptisant la boîte originelle en Edi Periodici. Luca Mencaroni a entrepris un travail bibliographique exhaustif et somptueux, Imaginario Sexy, listant cette pléthorique production populaire qui se poursuivra jusqu'au début des années 90. Son volume 4 est consacré à la Edi Periodici de Cavedone, laquelle poursuit les aventures des héroïnes phares comme Isabella, Lucifera et Jacula et de Goldrake, l'agent de la CIA qui a le visage de Jean-Paul Belmondo. Créer la friponne sorcière à couette Magella, le mécanicien communiste de Prolo et un marquis de Sade aventurier. Terror et Oltre Tomba proposent des récits d'épouvante indépendants, tandis que plusieurs séries de faits divers malmènent et tuent les femmes. Ces anthologies sont surpassées par l'imagination d'un scénariste crucial, Carmelo Gozzo, qui fournit la totalité des histoires de science-fiction des 156 Terror Blue et des 165 Story Blue qui alimentèrent, dans des traductions parfois tronquées, les séries vertes et incubes français. Avec Gozzo, l'exutoire misogyne des Fumetti prend les proportions d'une délirante farce macabre. Des extraterrestres, souvent repoussants, font subir aux femmes terriennes des tourments toujours plus sophistiqués dans leur mobile. Créer une œuvre musicale à partir de gémissements, provoquer la haine d'une victime pour générer des molécules à des fins thérapeutiques, enregistrer des émotions violentes pour les transmettre à une friande clientèle intergalactique. Viols, pénétrations multiples, tortures sont ainsi habilement justifiées au profit d'une salace Twilight Zone qui décapsule sans pincettes les tréfonds de l'inconscient masculin. Tout est désormais possible, générant d'insolites images. Une femme dont le sexe et la bouche sont intervertis ou un corps gruyère parcouru de trous. Imaginario Sexy de Luca Mencaroni reproduit toutes les couvertures de cet apogée de l'exubérance misogyne. Plus précieuse encore, il présente les caractéristiques de chaque série et les commente, liste pour chaque fascicule les dessinateurs des récits et des couvertures, parmi lesquels nous relevons les noms de Victor de la Fuente, Milo Manara, Raoul Buzzelli, le français Jacques Géron, Enzo Sciotti, Allaire et Lorenzo Lepori, dont l'élégante méticulosité du trait forme un alliage excitant avec l'amoralisme de Gozzo.
Merci Christophe Beer, merci Philippe Baudouin
d'avoir été
ce soir notre invité. On se fera l'écho, bien sûr, de vos prochaines aventures. Je rappelle les sujets évoqués ce soir dans Mauvais Genre, le festival Move, donc, et surtout le vendredi 8 juin avec Frédéric Nosiciel, donc tous les renseignements sur nos réseaux sociaux. Du 2 au 14 juin, l'Opéra Comique à Paris, direction musicale, donc, de Laurence Equilbé, le chœur Accentus et l'orchestre Insou. Soulard, dans une mise en scène de David Bobet, c'est La nonne sanglante de Charles Gounod. La revue Terrain, le numéro 69, entièrement consacré aux fantômes. La revue Carbone, le numéro 2, lui est entièrement dédié aux maisons hantées, voire des fantômes. Donc le colloque de Strasbourg dont nous parlait Philippe Baudouin est paru aux éditions Quimet. Et puis Daniel Sansu, Vampires, fantômes et apparitions, nouveaux essais de pneumatologie littéraire. C'est aux éditions Herman, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Benjamin Vignal, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Christophe Bir et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un qui a fait sa part aux fantômes. C'était Jacques Tati qui jouait le rôle. Il s'agit de Claude Autant-Lara que nous évoquerons en compagnie de son biographe Jean-Michel Blesse et de Bertrand Tavernier. D'ici là, bonne nuit à tous en compagnie des masterclass de France Culture.